Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain pendant la prochaine demi-heure avec à la une la crise politique en Haïti entre le Conseil présidentiel de transition d'un côté et le gouvernement de l'autre. On en parle avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Notre correspondante au Brésil nous parlera aussi du racisme algorithmique. Oui, le racisme existe aussi sur les réseaux sociaux, il est même pensé pour ça. Et l'actualité des Outre-mer en Martinique, Benoît Ferrand, l'accord signé hier entre le gouvernement et les distributeurs ne satisfait pas le mouvement à l'origine de la contestation.
Et oui, ce n'est même plus l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Là, c'est carrément vide, en tout cas pour le mouvement à l'origine de la contestation. Nous entendrons tout à l'heure le préfet de la Martinique, le président de la collectivité territoriale et puis bien sûr le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot.
À tout à l'heure, on vous retrouvera après le journal. Et le journal, c'est avec Gilles Moreau. Bonjour.
Bonjour à tous.
L'armée israélienne dit vérifier des informations selon lesquelles le dirigeant du Hamas, Yahya Sinwar, aurait été tué.
Oui, Yahya Sinwar, considéré comme l'architecte des attaques du 7 octobre 2023. Il a été promu cet été en devenant le chef politique du mouvement succédant à Ismaël Haniyeh. Et Yahya Sinwar dans la ligne de mire d'Israël. D'après l'agence Reuters, il a été tué. Nouvelle à confirmer, des vérifications sont en cours, fait savoir l'armée israélienne.
En Inde, à présent, les gangs mafieux sont au cœur du débat politique.
Avec un nom qui revient, Lawrence Bishnoi. Depuis sa cellule, ce parrain est cité dans deux affaires d'assassinat politique. L'une à Bombay, l'autre au Canada. De quoi relancer le débat sur la toute-puissance des gangs et de leur collusion avec le pouvoir indien. Correspondance de Combastin.
Ce samedi, le politicien Baba Siddiq est assassiné à Bombay. Ce mardi, le Canada mène la charge contre le meurtre d'un indépendantiste sikh à Vancouver, qui aurait été commandité par l'Inde. Un nom revient dans les deux affaires, celui de Lawrence Bishnoi. Le gang Bishnoi est implanté au nord-ouest de l'Inde. Son leader a beau être en prison, il ne continuerait pas moins de tirer les ficelles du crime organisé, selon Utpal Pathak, spécialiste des mafias en Inde.
La police le change de prison tout le temps et en même temps, il est impliqué dans plus de 900 tueries. En tuant ce politicien à Bombay, il voulait montrer que personne ne lui échappe. Au Canada, oui, le gang Bishnoi est très actif. Mais on a peu de preuves définitives de son implication dans le meurtre de ce militant indépendantiste sikh.
Depuis sa cellule, Lawrence Bishnoi aurait aussi organisé des attaques contre des stars du cinéma qui ne lui revenaient pas. Son implication dans la crise entre l'Inde et le Canada n'a fait que confirmer son statut d'ennemi numéro un. Mais si cette opération était avérée, les liens entre le gouvernement indien et son réseau seraient questionnés, même si New Delhi nie en bloc. Combastin, Bangalore, RFI.
L'aviation israélienne a frappé ce matin la ville syrienne de Latakié, fief du président Bachar el-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un dépôt d'armes du Hezbollah qui a été visé par cette opération qui a fait 2 blessés. De leur côté, les États-Unis sont intervenus au Yémen, bombardant des positions des rebelles houthis. Au Liban, au moins une frappe a touché ce matin les environs de Tyr, ville côtière du sud. Et l'armée israélienne a lancé des ordres d'évacuation dans une région de l'Est, avertissant la population d'une prochaine attaque.
La guerre se poursuit également à Gaza et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour évoquer le sort des déplacés dans le nord du territoire palestinien.
Oui, réunion en urgence hier soir à la demande de l'Algérie. Le Conseil de sécurité a pris connaissance des derniers chiffres d'OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, et ces chiffres sont très alarmants. Mise en cause, Israël accuse le Hamas de détourner l'aide à la population gazaoui. Correspondance à New York de Carrie Noton.
Selon OCHA, 85% des mouvements humanitaires au nord de la bande de Gaza ont été refusés par Israël depuis 2 semaines. Il ne reste presque plus d'aide à distribuer. Le week-end dernier, seuls 1500 rations et 1500 sacs de farine ont pu être donnés. Mais les boulangeries manquent même de fioul pour faire cuire le pain. Face aux critiques qui accusent Israël de vouloir affamer les Gazaouis, Washington a menacé de suspendre une partie de son aide si la situation ne s'améliore pas d'ici 30 jours. L'ambassadeur israélien Danny Dan a balayé ses critiques et a martelé que le problème à Gaza n'était pas un manque d'aide.
L'aide est plus que suffisante pour subvenir aux besoins de chacun des habitants de Gaza. Le vrai problème, c'est le Hamas. Cette organisation terroriste détourne l'aide, la saisit pour ses propres intérêts. Ils volent et revendent l'aide destinée aux civils de Gaza. Ils transforment l'aide humanitaire en une machine à profit.
L'organe militaire israélien chargé de superviser les affaires civiles dans les territoires palestiniens, le COGAT, a assuré que 50 camions transportant de l'aide humanitaire avaient été transférés hier vers le nord de Gaza. Karine Auton, New York, RFI.
Et dans un nouveau rapport, l'ONU prévient que quelque 345 000 Gazaouis seront confrontés à la faim de façon catastrophique cet hiver, contre 133 000 actuellement.
L'Ukraine et la question migratoire dominent le Conseil européen qui s'est ouvert ce matin à Bruxelles.
Oui, les chefs d'État et de gouvernement des 27 se retrouvent pour échanger entre autres sur l'immigration. La présidente de la Commission s'est montrée intéressée par le partenariat qui vient d'entrer en application entre l'Italie et l'Albanie. Le principe est de transférer les migrants qui veulent gagner l'Italie, d'abord en Albanie pour qu'ils y fassent leur demande d'asile. Une forme de sous-traitance qui fait débat. Le président ukrainien est à Bruxelles pour défendre son plan pour la victoire et réclamer le soutien des 27. L'Ukraine est prête à faire une vraie place à la diplomatie. Mais pour cela, nous devons être forts. C'est ce qu'a dit ce matin Volodymyr Zelensky au chef d'État et de gouvernement avant de retrouver plus tard dans la journée les 32 ministres de la Défense de l'OTAN.
Dernière ligne droite de la campagne aux États-Unis. Nous sommes à moins de 20 jours de l'élection présidentielle et on va parler de cette interview de Kamala Harris sur Fox News.
Oui, la candidate démocrate est passée hier soir sous les fourches codines de la chaîne conservatrice. Kamala Harris a promis, si elle est élue le 5 novembre, une présidence en rupture avec celle de Joe Biden. David Thompson.
Kamala Harris a pris le risque d'une interview en terrain hostile sur Fox News. La première question porte sur l'immigration, une de ses principales vulnérabilités. Puis le journaliste Brett Baer rediffuse deux passages télé durant lesquels la vice-présidente peine à expliquer en quoi sa présidence serait différente de celle de Joe Biden. Mais pour la première fois, la candidate démocrate sort de sa prudence d'équilibriste et prend clairement ses distances avec Joe Biden.
La présidence ne sera pas la continuation de celle de Joe Biden. Comme chaque nouveau président qui entre en fonction, j'apporterai mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle et des idées nouvelles. Je représente une nouvelle génération de dirigeants.
Et sur Fox News, chaîne la plus regardée des États-Unis, ouvertement pro-Trump, Kamala Harris offre aux téléspectateurs un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre sur le candidat républicain.
Il parle d'enfermer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Nous sommes une démocratie. Et c'est pourquoi quelqu'un comme l'ancien chef d'état-major interarmé, Mark Milley, a dit à propos de Donald Trump qu'il est une menace pour les États-Unis d'Amérique.
Quelques heures plus tôt, Kamala Harris était en meeting avec plusieurs figures républicaines qui font désormais campagne pour elle, espérant ainsi rallier l'aile très minoritaire des républicains anti-Trump. David Thompson, Miami RFI.
En bref, maintenant, remise en liberté pour Kemi Seba, l'influenceur anti-Occident. La nouvelle est tombée en milieu de matinée. Depuis le début de la semaine, Kemi Seba était en garde à vue à Paris dans les locaux de la Direction Générale des Services Intérieurs pour des soupçons d'ingérence étrangère. Le parquet a fait savoir qu'il était relâché, mais que l'enquête se poursuivait. Malgré un accord annoncé sur les prix, la crise continue à la Martinique, île française des Antilles, confrontée depuis le début septembre à une mobilisation contre la vie chère. Enfin, dans l'actualité économique, la baisse des taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne abaisse son principal taux directeur d'un quart de point à 3,25%.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent dans deux heures pour un prochain journal. Et nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Et d'abord en Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous sommes en ligne, comme chaque jeudi, avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
On va parler d'abord de cette crise désormais complètement ouverte entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement haïtien.
Tout à fait, c'est une crise inédite. C'est la première fois qu'on a une situation de ce genre dans l'histoire de la présidence haïtienne. Hier, le président Leslie Voltaire a écrit officiellement au Premier ministre Gary Conny pour lui demander d'opérer ensemble un remaniement ministériel, un changement de cabinet. Et il faut dire que le président ne peut pas le faire tout seul, il faut l'aval du Premier ministre. Le Premier ministre non plus ne peut pas changer le gouvernement sans l'aval du président. Mais quelques heures avant, c'est le Conseil des ministres qui s'était réuni qui a sorti une résolution disant qu'ils apportaient leur soutien à la ministre des Affaires étrangères, qui est la vraie personne qui cause tous ces problèmes. Il faut dire que le président Voltaire ne le cache pas. Il veut la tête de la ministre des Affaires étrangères. Et le Premier ministre Kony ne le cache pas non plus, il veut garder son ministre des Affaires étrangères.
Donc vous nous le disiez, il y a vraiment aujourd'hui, d'un côté, le Conseil présidentiel de transition et de l'autre, le gouvernement, vraiment deux blocs.
Deux blocs qui sont irréconciliables pour le moment. Il faut dire que selon la Constitution haïtienne, seul le Parlement peut renvoyer un ministre. Personne d'autre ne peut le faire, sauf entente entre le président et le Premier ministre. Comme il n'y a pas d'entente pour le moment, il n'y a pas de Parlement non plus. Il y a un blocage complet dans la transmission du pouvoir en Haïti.
Et ce blocage politique, il a été évoqué hier par les représentants américains qui étaient en visite en Haïti.
Tout à fait. Une importante délégation américaine était en visite en Haïti. L'objet, c'est d'abord la sécurité. C'est la mission multinationale d'appui à la sécurité. C'était ça l'objet, mais les Américains n'ont pas pu éviter d'aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire cette mésentente entre le Conseil présidentiel et le gouvernement autour de la ministre des Affaires étrangères. Et les Américains ont fini par dire quelque chose qui envoie les deux parties dos à dos. Il faut mettre avant tout le pays, les intérêts du pays, avant les parties, c'est-à-dire avant les camps, avant les personnalités. On va voir comment cela va se passer dans les jours qui viennent.
Alors, vous nous l'avez rappelé, au cœur de ce blocage, il y a la ministre des Affaires étrangères et notamment des déclarations qu'elle a faites au sujet de la République dominicaine et des expulsions des Haïtiens qui y vivent, des expulsions qui s'accélèrent. Et la situation s'aggrave, France, de plus en plus, puisque chaque jour arrivent entre 600 et 800 personnes à Ouanaminthe.
Et c'est un point de la frontière. Il y a d'autres points de passage à la frontière, mais Ouanaminthe, c'est la ville principale où les gens arrivent, mais il y a d'autres points. Effectivement, 400 à 600 personnes arrivent tous les jours. Les organismes de la société civile qui habituellement recueillent les migrants et les aides sont débordés. Ils n'avaient pas la capacité d'accueillir autant de monde. Et le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas pu mettre en place les mécanismes pour faire l'accueil en bonne et due forme. Il faut dire que la situation entre Haïti et la République dominicaine est au cœur du différend entre le Conseil présidentiel et la ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères a fait des déclarations, particulièrement sur les réseaux sociaux, où elle a dénoncé la politique de la République dominicaine envers les migrants haïtiens. Et il se trouve que le Conseil présidentiel aurait préféré beaucoup plus de modération dans les propos de la ministre. Et c'est sur ce point qu'il y a achoppement.
Merci beaucoup, Franz Duval, d'avoir été en ligne avec nous, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Nos auditeurs vous retrouvent jeudi prochain, ici, sur cette antenne. Et puis, on peut vous lire d'ici là sur lenouvelliste.com.
RFI, The World's Voices.
On va continuer à feuilleter la presse du continent avec vous, Christophe Paget. Aux États-Unis d'abord, dernière ligne droite de la campagne avant la présidentielle du 5 novembre. On la disait plutôt réfractaire aux interviews. Kamala Harris a tenté le grand saut hier sur Fox News, chaîne ouvertement favorable à son rival.
Oui, car Kamala Harris a perdu l'élan qu'elle avait acquis à son arrivée dans la campagne présidentielle cet été, titre The Hill. À en croire les derniers sondages, elle aurait toujours une légère avance au niveau national et dans plusieurs états clés, mais elle perd du terrain. Elle est donc sous pression, écrit le Washington Post, pour élargir son audience aux républicains et aux conservateurs, alors que la présidentielle approche, d'où cette interview.
Qui s'est révélée pour le moins animée.
We have a broken immigration system that needs to be repaired.
So your and Homeland Security Secretary said that 85%
well,
of apprehensions.
Finished. I'm not finished.
Let me just finish. I'll get to the question. I promise you.
I was beginning to answer. Finish. May I finish responding, please?
But
you have to let me finish.
Voilà un petit montage du Washington Post pour vous donner une idée de tous les moments où l'intervieweur a coupé la parole à la candidate démocrate.
Elle était venue pour une interview. Elle a eu un débat, titre le New York Times, un entretien qui est devenu une dispute au moment où il a commencé. Le quotidien remarque que l'intervieweur, Brett Baier, a à plusieurs reprises insisté sur les thèmes qu'utilise Donald Trump pour attaquer la vice-présidente, comme l'immigration. Il a d'ailleurs commencé l'entretien là-dessus. Mais il n'a pas laissé la possibilité aux téléspectateurs de Fox, que cela intéressait certainement, d'entendre les réponses de la candidate, puisque, on vient de le constater, et USA Today est d'accord avec le Washington Post, il lui a constamment coupé la parole. Pour le quotidien conservateur Washington Times, c'est au contraire Kamala Harris qui a, à plusieurs reprises, éludé les questions, passant souvent à des attaques virulentes contre Donald Trump et se vantant des politiciens républicains et des anciens fonctionnaires de l'administration Trump qui la soutiennent. Quoi qu'il en soit, USA Today estime qu'en décidant d'aller sur Fox News, la candidate a montré qu'elle était nettement plus courageuse que Donald Trump, qui, lui, a annulé une interview sur CNBC, préférant des interviews comme celle de mercredi sur la Fox, où de gentilles questions lui ont été posées devant un public de supporters.
Aux États-Unis, toujours à New York, la justice a condamné l'ancien chef de la lutte antidrogue du Mexique pour trafic de stupéfiants.
38 ans et 8 mois de prison, ainsi qu'une amende de 2 millions de dollars pour trafic de drogue, crime organisé et mensonge aux autorités américaines, détaille Latherton. Excelsior parle d'une sentence historique et affirme que Genaro García Luca est un miroir dans lequel le pays peut se regarder et voir le reflet de ses institutions. Le quotidien parle d'un héritage maudit de la classe politique qui a désintégré les gouvernements du PAN et du PRI et qui a atteint les gouvernements actuels comme des maladies transmissibles dues à la corruption politique. Mais pour la Razón, si cette sentence n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement de Mexico, l'actuel comme les précédents, c'est parce que la justice des États-Unis a trouvé le moyen de déclarer quelqu'un coupable en se basant sur les témoignages de criminels. Des témoignages toujours importants pour avancer dans des enquêtes, mais qui doivent s'accompagner de preuves matérielles. Or, dans le cas de Genaro García Luna, il n'y en a aucun, insiste Excelsior, qui voit dans ce procès l'ouverture de la boîte de Pandore. Il en annonce de nombreux autres menés de la même manière. L'éditorialiste de Millenio se demande de son côté quel policier, quel procureur, quel militaire souhaitera collaborer avec les institutions américaines après les arrestations et les jugements de responsables mexicains aux États-Unis ces dernières années. Compte tenu de l'ampleur de la situation en matière de criminalité, de trafic de substances, d'armes et de violences, est-il possible de la combattre malgré cette méfiance entre voisins ?
La suite de votre revue de presse dans quelques minutes, Christophe Paget, juste après un détour par le Canada.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où le Premier ministre était auditionné hier, Justin Trudeau, interrogé par le comité d'enquête sur l'influence étrangère à propos des révélations ayant mené à l'expulsion de 6 diplomates indiens. En toile de fond, des soupçons d'espionnage, de surveillance d'opposants politiques indiens au profit du gouvernement Modi et des soupçons d'implication des autorités indiennes dans des crimes violents commis au Canada. Pascal Guéricola.
Questionné sur ses accusations contre le gouvernement indien, impliqué selon lui dans l'assassinat du militant Sikh Hardeep Singh Ninjar, le premier ministre canadien persiste et signe. Justin Trudeau.
Des diplomates recueillaient des informations sur des opposants ou du moins des gens en désaccord avec le gouvernement Modi. Des renseignements ensuite transmis au plus haut niveau du gouvernement indien qui, à son tour, les donnait à des gangs pour commettre des actes de violence contre des Canadiens au pays.
Même si l'enquête de la police canadienne semble crédible, plusieurs experts s'étonnent que le Premier ministre défende les Sikhs avec autant de vigueur. Pour la professeure en relations internationales, Maïka Sondarji, il s'agit peut-être d'un calcul électoral.
Dans le cabinet des ministres de M. Trudeau, il y a toujours eu au moins un ministre d'origine Sikh. Pour le Parti libéral du Canada, le groupe d'électeurs Sikh est très important. Donc, on va défendre ce militant-là qui a été assassiné. C'est un leader important de la communauté Sikh au Canada. Donc, si ça avait été, je ne sais pas, un militant ouïghour, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces répercussions-là.
2% de la population canadienne est d'origine Sikh et cette minorité appuie les libéraux dans une vingtaine de circonscriptions électorales. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
À Québec, il est 9h18.
RFI. As vozes do mundo.
Direction maintenant le Brésil, pays dans lequel règne, selon Amnesty International, un racisme systémique. Et ce racisme, il est aussi présent sur les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies n'échappent pas au phénomène. Un racisme algorithmique, pas facile à chiffrer, mais bien réel, comme vous pouvez l'entendre dans ce reportage de notre correspondante Sarah Cozzolino.
Dans une vidéo publiée au mois de février, l'influenceuse Monique Icorea explique pourquoi elle a posté la photo d'une blonde sur son profil Instagram. Sur le réseau social, elle apparaît toujours bien maquillée, élégante et incarne le style de vie à la carioca. Seul problème, elle est noire.
J'ai des difficultés en ce moment car les marques avec lesquelles je travaille me réclament des données chiffrées. Elles disent qu'elles aiment mon contenu, mais que mon taux d'engagement n'est pas bon. Donc l'idée de poster ces blondes, c'était justement pour tester l'algorithme. C'était une stratégie pour augmenter mes chiffres et ils ont augmenté, comme par magie.
Ce n'est pas la première fois qu'elle dénonce le racisme dans ce monde impitoyable des réseaux sociaux. Elle accuse la plateforme de moins distribuer son contenu à ses abonnés en raison de sa couleur de peau.
Les marques ont commencé à me bloquer à cause de mes prises de position. Elles ne m'ont plus contactée car j'étais vue comme la noire en colère. J'étais considérée comme trop militante, quelqu'un qui parle trop, qui pose problème. J'ai dû rentrer dans le moule parce que ça affectait trop mon travail et mes revenus.
Poster des femmes blondes comme l'a fait Monique Correa n'est pas une technique nouvelle. Arthur Vini est chanteur et compositeur noir. Souvent, il poste la photo d'une personne blanche quand il veut en réalité partager le profil d'une personne noire.
À chaque fois que j'avais recours à cette stratégie, cela atteignait automatiquement beaucoup plus de public que lorsque je postais seulement le profil de la personne noire. Et ça a motivé d'autres influenceurs à faire la même chose.
Beaucoup se sentent encore trop seuls face aux plateformes et aux marques. C'est la raison pour laquelle le musicien a rejoint Frenchy Negra Online, un groupe WhatsApp où près de 200 personnes, influenceurs, artistes et personnalités noires peuvent échanger sur ce sujet.
Tout le monde avait cette même plainte. Mon travail n'a pas de visibilité, il n'est pas distribué de manière juste sur les réseaux sociaux.
Ruchi Lopez est sociologue et à l'origine de ce mouvement. Pour elle, l'algorithme n'est pas le seul responsable.
Qu'est-ce qui fait l'algorithme ? C'est le comportement de la société. Quand les personnes me disent qu'elles ne sont pas racistes, je leur demande combien de profils, combien de personnes noires et de contenus de ces personnes elles suivent sur les réseaux sociaux. Et elles se rendent compte qu'elles n'en suivent pas. Alors évidemment qu'elles ne vont pas recevoir ce type de contenu. Mais c'est un comportement fruit d'une société raciste.
La société ne peut pourtant pas être la seule coupable, selon Tarcísio Silva. Dans son livre « Racisme algorithmique, intelligence artificielle et discrimination sur les réseaux sociaux », le chercheur insiste sur la responsabilité des big tech. Il accuse les grandes entreprises technologiques de tirer profit d'une relation asymétrique qui encourage les discours de haine.
La société civile, l'académie et l'État doivent agir pour obliger les entreprises qui développent ces technologies à améliorer leurs services et leur degré de fiabilité.
Car les technologies employées par ces sociétés manquent encore trop de transparence, selon le chercheur. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
RFI, la radio del mundo.
Et on vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite de votre revue de presse. Les étudiants argentins sont toujours mobilisés contre les coupes budgétaires et ils ont organisé hier soir une marche au flambeau avec leurs professeurs.
Oui, la photo est en une de El Día, une foule qui, en long cortège, défile dans une rue de Buenos Aires. Le feu des bougies illuminait les visages des étudiants et des employés qui tenaient un grand drapeau argentin sur lequel on pouvait lire « Unité pour l'éducation publique », raconte Parina Doce. Cette marche au flambeau, c'était une des mesures du plan de lutte visant à récupérer les salaires des enseignants et des non-enseignants et à exiger davantage de fonds pour le budget 2025. Il s'agissait aussi de protester contre les violences. Dans l'université de Quilmes, un groupe de provocateurs libertariens, comme Javier Milei, le président, a attaqué une assemblée d'étudiants et d'enseignants avec du gaz poivré, une violence, estime Parina Doce, amplifiée par les insultes de Javier Milei. La capitale résume en titre « Le conflit sur l'université se tend ». El Día précise que la mobilisation de ce mercredi a eu lieu dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes universitaires du pays, avant que les facultés et les écoles supérieures ne baissent leurs portes ce jeudi, ne ferment leurs portes ce jeudi, pardon, pour une nouvelle grève de 24 heures. La Nation annonce que la semaine prochaine, il ne devrait pas y avoir de cours, lundi et mardi, et mercredi, des cours publics seront organisés dans toutes les universités du pays et aussi au Parlement.
L'Argentine, où est décédée hier une star de la chanson, Liam Payne, 31 ans, est connu depuis son plus jeune âge grâce au boys band One Direction. Son visage s'affiche dans les journaux du monde entier. Aujourd'hui, des journaux qui rappellent le parcours de ce chanteur britannique adulé par les adolescentes. Les journaux qui rappellent aussi sa lutte pendant des années contre des problèmes d'alcool.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler de la Martinique. D'abord, la signature hier soir d'un accord sur une baisse des prix n'a pas changé grand-chose à la position des uns et des autres à propos de la vie chère. Pour l'État, la collectivité territoriale et la grande distribution, c'est historique. Mais pour le mouvement à l'origine de la contestation, c'est tout simplement nul et non avenu.
Eh oui, la bouteille n'est pas à moitié vide ou à moitié pleine, elle est carrément vide, en tout cas pour le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, mouvement à l'origine de la contestation. Le RPRAC qui revendiquait, rappelons-le, une baisse des prix sur tout le secteur alimentaire. Alors, nous allons faire le tour des différentes réactions, à commencer par le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier.
Appliquer cet accord à l'ensemble des produits alimentaires importés aboutissait immédiatement immédiate à l'assèchement des financements des collectivités locales, puisqu'elles ne bénéficiaient plus du produit de l'octroi de mer, mais également un affaiblissement, une fragilisation de toute l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire martiniquaise qui allait subir de plein fouet la concurrence de produits importés alors que les dispositifs fiscaux sont là pour les protéger et favoriser leur développement. Ce n'était en l'état pas possible.
Un autre signataire maintenant de l'accord, le président de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, Serge Letchimy.
Nous passons de 134 produits qui faisaient l'objet du BQP à 7000 produits environ, entre 6500 et 7000 produits. C'est énorme. C'est environ 27% de la consommation totale locale. Et dans un hypermarché ou un supermarché, c'est entre 40 et 50%. C'est-à-dire la moitié de la consommation locale. C'est énorme. Donc nous avons fait un effort gigantesque. Maintenant, je mettrai tout en œuvre pour ça. C'est le contrôle.
Et puis, autre position, bien différente celle-là bien sûr, le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, qui a donc refusé hier soir de signer l'accord.
On a fait des concessions partout où il fallait les faire, limite même là où il ne fallait pas les faire. Mais de les voir signer en disant une partie de l'alimentaire, quelques miettes, parce qu'on parle de 6 000 produits sur 40 000, honnêtement, je pense qu'ils sont en train de nous démontrer que notre parole n'a aucune valeur, celle du peuple n'a aucune valeur. Moi, c'est mon ressenti.
Comprenez-vous que ça peut représenter aussi un risque pour la production locale ?
Vous me parlez de la production locale chez qui personne n'achète parce que personne n'a les moyens d'acheter, de cette production locale à laquelle vous me parlez ? La production locale qui était déjà en difficulté avant 2009, qui était en difficulté pendant les 15 ans qu'on attendait, qui est en difficulté en 2024,
ça veut dire quoi ? Faut la tuer quand même ?
Non, j'ai jamais dit qu'il faut la tuer. Et si jamais elle doit mourir, ce n'est pas le peuple martiniquais qui l'a tuée. C'est ceux qui ont importé massivement. Il ne faut pas échanger les rôles. De dire que c'est soit la production locale, soit le peuple. C'est les deux. On doit soigner la production locale, on doit soigner le peuple. On va rester mobilisés, déterminés, jusqu'à ce que ceux qui représentent l'État viennent ici solutionner leur problème. D'une manière ou d'une autre, on va le solutionner. On va aller là où personne n'a encore été. On maintient les blocages.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation ce matin en Martinique. Rodrigue Petitot était au micro de Pierre-Yves Honoré depuis la Nouvelle-Calédonie où il est actuellement en visite. Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a lui salué la signature de l'accord et déclaré que, bien sûr, il viendrait bientôt en Martinique. Bon après-midi, Aude. Aude, qu'est-ce que je raconte ? Anne, à demain.
Merci Benoît, je vous appelle quand même Benoît. On se retrouve demain. Et on va se quitter en musique avec le musicien australien RYX qui sera en concert ce soir à San Francisco aux États-Unis. Voici le morceau Howling. Keep the car running. Follow my pollen. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Mais vous restez sur RFI, bien sûr. Dans une minute maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Très bonne journée à tous.
Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique « Actu ». Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.